nous rejoignent en ligne, il y a d'abondante joie dans sa présence, n'est-ce pas? J'espère que vous le croyez. Et si parfois les circonstances peuvent nous accabler, nous voulons quand même proclamer que sa joie sera notre force. Amen. Il est l'auteur de notre joie et c'est ce que nous voulons déclarer ensemble. On y va?
C'est toi que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas.
C'est
toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie.
Et notre joie ce matin.
Jésus, tu es l'auteur de ma joie.
On y va, on tape dans les mains.
Exalté,
il est exalté.
Il est exalté, le roi délicieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je
Je serai dans Que je voudrais donc soumettre à l'Église. Et pour ceux qui peut-être viennent là pour la première fois ou nous découvrent sur Internet, sachez que nous sommes une Église, comme d'autres Églises d'ailleurs dans le monde, qui croyons que Dieu parle encore aujourd'hui, que ce soit à travers sa parole ou à travers, je dirais, de simples personnes comme moi, par l'inspiration de son esprit. Et voici quelle est la pensée. Tu es venu ce matin et tu es complètement tracassé, perturbé. Tu te dis, mais quand même avec cette histoire de christianisme, est-ce qu'on n'en fait pas un peu de trop ? Tu te dis, bon, pécheur, sauveur, mais enfin, quand même, il ne faut peut-être pas exagérer. Et c'est à peu près dans ces termes que tu t'exprimes. Pourtant, tu aimes bien Jésus. Tu dis, oui, ça c'est un gars qui est bien. Et tu aimes bien le christianisme, tu trouves que c'est une bonne religion, tu te dis, oui, il faut faire ça. Alors d'ailleurs, souvent, tu écoutes des prédications, ou tu vas dans des églises, ou parfois même tu lis quelques bouts de versets, tu dis, ça c'est bien. Mais quand même, il ne faut pas exagérer. La foi, elle est pour moi, elle est à l'intérieur, et puis cette histoire-là de salut, de péché quand même, ça c'est quelque chose qui te bloque. Alors ce matin, le Seigneur Jésus, celui que tu aimes bien, que tu apprécies, pour lequel tu as la sympathie, eh bien, sache qu'il veut te parler à toi directement, d'homme à homme. Il te dit, non, tu ne peux pas simplement adopter le christianisme comme une religion, une philosophie, une culture. Tu ne peux pas parce que ta nature est pécheresse fondamentalement. Ça ne veut pas dire que tu fais plus de mal que d'autres. Non, le problème n'est pas là. C'est dans la nature même de ta vie, tant que tu n'es pas connecté à Dieu directement, il y a quelque chose qui ne passe pas. Tant que tu ne mets pas la bonne énergie dans ton véhicule, celui-ci n'avance pas. Et bien en réalité, c'est pareil pour toi. Jésus, entre guillemets, c'est comme un bulldozer qui aurait ouvert un chemin dans une forêt dans laquelle on ne peut pas passer. Si tu essayes de passer à côté, tu n'avances pas. Jésus te dit, suis le chemin que j'ai tracé. En fait, oui, il te dit, l'être humain par définition est pécheur et toi tu es pécheur. Tu l'es, c'est tout, c'est une réalité. Par contre, lui, il a absolument tout fait pour te sortir de là. Et c'est pour ça qu'il te dit, viens et suis-moi. Accepte-moi comme ton sauveur. Reconnais que Dieu est nature pécheresse. Même si tu ne comprends pas complètement tout ce matin, mais reconnais-le. Reconnais-le et tu vas voir ce qui va se passer. Parce que là où pour l'instant tu bloques, tu heurtes, il y a quand même des choses, tu dis je ne comprends pas bien quand même, tu vas être très surpris. Tu vas être très surpris. Tu sais, c'est comme un enfant qui apprend des choses, ce qu'il apprend en CP, il va pas, ça va lui servir pour la suite. Mais par contre, on ne va pas lui donner des enseignements de terminale parce qu'il ne pourrait pas comprendre. Le Seigneur Jésus, celui que tu aimes déjà, et qui est non seulement un mec bien, mais qui est Dieu, fils de Dieu, te dit, viens à moi, fais-moi confiance, donne-moi la main, et tu vas voir ce qu'on va vivre ensemble.
Je crois qu'en réponse à une pensée comme ça, il n'y a rien de mieux que de faire ce que Jésus a dit, prendre la Sainte-Seine pour se rappeler. Pourquoi on fait tout ça ? Pour se rappeler, c'est quoi la signification de la croix ? Pour se rappeler à quel point le sacrifice de Jésus donne du sens à tout ce qu'on fait. On va juste lire le moment où Jésus, dans l'évangile de Matthieu, va instituer la Sainte-Seine. Matthieu 26, 26. « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit, et un détail important, et le donna aux disciples en disant, prenez manger, ceci est mon corps. Alors ce matin, on va faire quelque chose, on va distribuer et on va essayer de prendre la Sainte-Seine tous en même temps. Parce qu'il y a un chant, je veux vraiment qu'on réfléchisse aux paroles de ce chant qui s'appelle Cœur à cœur. Donc on va tout distribuer, puis juste attendez avant de prendre la Sainte-Seine, je remonterai après pour qu'on la prenne tous ensemble. On pense vraiment que c'est une signification très forte de faire ça en tant que corps de Christ, en tant que famille de Dieu. Le premier détail qui moi m'impacte, c'est que c'est Jésus qui donne le pain à ses disciples. En fait, la Sainte-Seine, c'est une invitation de Jésus à un repas. C'est pas nous qui l'invitons à un repas, c'est Jésus qui nous invite à un repas pour se souvenir de son corps brisé. Peut-être tu t'es senti visé par la pensée d'Anita ce matin, et juste te rappeler la Sainte-Seine, c'est le corps de Jésus brisé. Il a été cloué, il a été fouetté, il a été insulté, il a reçu un coup de lance dans le côté, il a reçu tout ce que toi et moi on aurait dû vivre, on aurait dû recevoir pour toutes les fautes. Alors non, le mot péché n'est pas trop grave dans l'Église. Parce que Jésus nous sauve du péché, Jésus nous lave de notre péché, Jésus prend notre péché à notre place. Alors on est obligé de parler de ça parce que c'est le message central de la Bible. On est obligé de parler de ça parce que c'est à travers le fait que Jésus porte notre péché qu'on puisse recevoir le salut, la vie éternelle. Deuxièmement, il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna. Encore une fois, c'est Jésus qui nous sert, c'est Jésus qui nous invite à ce repas en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance. » Pourquoi Nouvelle Alliance ? Parce que l'Ancienne Alliance, c'était comment je peux me sauver à travers la loi. Et la Nouvelle Alliance, c'est comment Jésus respecte totalement la loi pour que je puisse être sauvé par lui. Il y a un changement qui prend place. Le sang de la Nouvelle Alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Pour le pardon des péchés. Il y a un détail important aussi dans Luc. Luc vient amener une notion encore où on doit se partager les uns les autres. Luc 22, verset 17. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Partagez-la. Jésus nous invite, Jésus nous donne les éléments et après nous dit, maintenant partage-la. Et c'est exactement ce qu'on fait même littéralement ce matin. On passe la corbeille de pain, puis c'est une symbolique forte aussi de, on va faire ça ensemble parce que Jésus est mort pour moi, mais il est mort pour mon voisin, il est mort aussi pour la personne avec qui je suis peut-être en conflit en ce moment. Il est mort pour lui, il est mort pour elle, il est mort pour beaucoup, pour les péchés de beaucoup. Donc on va juste prendre ce chant, je reviendrai après pour prendre la Sainte Cène, mais qu'on puisse se rappeler ça. C'est Jésus qui nous invite à un cœur à cœur. Et il nous demande ensuite de le partager avec la personne à notre droite et à notre gauche. On continue.
Cherche dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix, mon cœur ne brûle que pour toi, c'est toi seul que je désire.
Merci pour cette scène qui vient juste nous rappeler à quel point ton sacrifice est grand, ton sacrifice est suffisant. Alors ensemble, en tant que corps de Christ, nous tous qui avons compris à quel point ce que tu as fait à la croix, c'est ça qui nous sauve. On veut prendre ce pain ensemble. Mangeons ensemble. Ton sang purifie, ton sang lave les péchés. On veut prendre cette coupe en se rappelant que ta mort nous rend la vie. Buvons ensemble. Seigneur, en tant qu'Église, on veut proclamer qu'il n'y a aucun plus grand, il n'y a rien de plus grand que ce que tu as fait à la croix. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que ta vie donnée sur cette croix. Et on veut tout abandonner à toi, on va reprendre ce pont ensemble, on veut tout abandonner à toi parce que toi t'as tout abandonné pour nous sauver. On veut tous abandonner nos vies encore ce matin et reconnaître que on veut perdre notre vie pour avoir la tienne, Seigneur, parce que toi tu l'as fait, toi t'es mort pour nous, toi t'as pas regardé au ciel de gloire que t'avais, t'es venu comme un humain sur terre, 100% homme, 100% Dieu, t'as vécu la vie parfaite, t'as vécu toute la souffrance qu'un homme pouvait vivre et t'es allé à la croix pour te pardonner. Alors en retour, on veut t'offrir nos vies en sacrifice, Seigneur, et te dire gloire à ton nom. Tu es saint, toi seul es digne, et on veut t'élever comme seul roi ce matin. Au nom de Jésus, on chante ensemble.
Je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur.
Amen. Fait du bien de se rappeler les choses les plus importantes. La mort de Jésus à la croix pour nous. Vous souhaitez la bienvenue à tout le monde, à tous ceux qui sont là à l'épi ce matin, puis peut-être à ceux qui sont là pour les premières fois. Peut-être vous êtes en vacances, vous avez été invité par un ami, vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une église évangélique. On croit en Jésus, on croit que Jésus sauve, on croit que Jésus est mort à la croix pour pardonner nos fautes, pour nous enlever notre honte, et on croit qu'il nous offre la vie éternelle à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, il y a un point accueil dans le hall, il y a tous les événements qu'on propose aussi pour les différents âges, les différents aussi centres d'intérêt, aussi les différentes langues aussi. On a un groupe en arménien par exemple, donc n'hésitez pas à y aller. Il y a peut-être un groupe pour vous, des groupes de maison aussi qui sont en pause l'été parce qu'on croit que le sabbat c'est aussi quelque chose qu'il faut respecter. Ça reprendra en force en septembre, mais n'hésitez pas à y aller pour toute information sur nos événements. Pas d'annonce ce matin, c'est les vacances. On veut juste remercier encore votre générosité. On fait un point une fois tous les deux mois où on veut vous remercier pour votre générosité financière, parce que ça nous permet aussi d'avoir des célébrations comme ça. Ça nous permet de soutenir des œuvres aussi pour que le royaume de Dieu avance, pour soutenir ceux qui sont dans le besoin également, et aussi pour notre projet immobilier qui a été voté au mois de juin, qui avance bien. On a vraiment reçu pas mal de dons, donc merci pour vous. Tout ça c'est pour Jésus, c'est pas pour nous. Donc on veut vraiment vous remercier et vous rappeler qu'il y a trois manières de donner aussi. les troncs qui sont à l'arrière, les troncs en bois. Sinon, on peut déposer un chèque au point d'accueil ou directement sur notre site, s'il y a le RIB, sur le site de l'EPI. Donc n'hésitez pas, si vous avez à cœur de donner, bien sûr, force, personne, c'est vraiment selon ce qu'on a sur le cœur et selon notre réalité, nos besoins puis nos réalités. Donc n'hésitez pas à y aller. Et merci encore pour votre générosité. On va inviter Raymond Pierre pour le message ce matin. Et on va débuter une nouvelle série d'été qui, je l'espère, va nous encourager à suivre Jésus en 2024. On va juste prier pour lui et après je lui laisse toute la place. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce que tu as mis à cœur à Raymond Pierre. Ce matin, Seigneur, on veut vraiment avoir des cœurs ouverts, des cœurs enseignables, des cœurs à ton écoute. Alors viens nous parler. Viens remplir Raymond Pierre de tes mots, de tes paroles, parce que c'est tes mots, c'est ta parole qui donne la vie, Seigneur. Donc viens le remplir de toi et rends-nous à ton écoute. Au nom de Jésus, amen.
Amen. Amen. Vous appréciez la clim ce matin dans la salle ? Il fait chaud, hein ? Il fait chaud. Et puis ben, l'été, c'est ça, on a besoin de se rafraîchir. Et on aime aussi partir en vacances un peu pour fuir les problèmes. Le problème des vacances, c'est que ça change pas les problèmes. Ça nous les fait juste éviter pendant quelques temps. On aimerait faire une série cet été, pendant ce mois d'août, sur les prières de Jésus. Parce qu'on croit qu'au travers des prières de Jésus, on va pouvoir regarder au modèle que lui nous a laissé pour entretenir notre relation avec Dieu, mais aussi pour faire face aux défis de la vie. Parce que si les vacances nous font partir un petit peu, la relation avec Dieu permet de changer nos circonstances, permet de nous changer au cœur des circonstances. Et donc, quoi de mieux que d'aller regarder dans comment Jésus a entretenu sa relation et sa vie de prière avec son Père au travers de la prière. Lui qui était pleinement Dieu, pleinement homme, lorsqu'il est venu sur terre, il a fait face aux mêmes défis, aux mêmes challenges, aux mêmes difficultés que chacun d'entre nous pouvons vivre au quotidien. Et il a su puiser ses ressources en Dieu son Père, et ce en particulier lorsqu'il a vécu l'opposition et le rejet qu'il a pu vivre. Comment réagir, comment résister face à l'hostilité, notamment quand ça concerne notre foi chrétienne. C'est la réponse qu'on va essayer d'apporter ce matin au travers de ce qu'on appelle la prière sacerdotale, et je l'expliquerai tout à l'heure, dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Alors, nous sommes le vendredi 26 juillet. Notre pays sort d'une campagne électorale douloureuse qui a cristallisé, fracturé le pays. Et puis on aspire tous à un petit temps, un petit peu où on va se rassembler. Ça va être plus calme, ça va être l'été, on va se poser, ça va faire du bien. Et puis, au-delà de tous ces débats, ouais, c'est ça, qui ont été polarisés, acharnés, on aspire juste à un petit peu de calme. Comme des millions de Français, on aspire à un été ensoleillé pour redescendre un petit peu. Et rien de tel qu'un événement sportif planétaire pour rassembler un pays. Amen. Alors en famille, on regarde la cérémonie, on se pose. On regarde la ville lumière Paris qui brille, qui est décorée. Son architecture, on voit les monuments défiler, on voit les sportifs défiler, les athlètes. Et puis arrive ce qui arrivera. La représentation du dernier repas du Seigneur, faite par des personnes qui ne partagent pas les valeurs éthiques bibliques que disciples de Jésus nous avons, et puis qui vont même se moquer de cet instant fort pour les chrétiens. Jérôme nous l'a rappelé ce matin à travers de la scène. Alors on est choqué, on est estomaqué par ce qu'on vient d'assister. Puis peut-être que certains d'entre vous, peut-être même moi-même, on a ressenti cette expression courante « j'ai mal à ma France ». Ça parle à quelqu'un, ça ? Yes, il y en a quelques-uns. « J'ai mal à ma France ». Alors, on sait que les protagonistes de l'histoire, ceux qui l'ont bâti, vont essayer d'expliquer que finalement, non, il ne s'agissait pas de la scène, c'était le festin des dieux avec Dionysos. Mais les premiers propos relatés aux journalistes, ils ne parlaient pas de ça. Ils parlaient bien qu'on ne voulait pas vraiment se moquer de Jésus, mais quand même, c'était ça qui était derrière. Alors le lendemain, c'est l'effervescence sur les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens, allant de la tristesse, la colère peut-être même exprimée, allant jusqu'à des propos les plus virulents de la part de disciples de Jésus. Alors on peut se dire, mais comment l'État français qui a souhaité au travers de cet événement rassembler a pu stigmatiser, a-t-il pu passer une commande qui stigmatise des milliards de chrétiens sur le monde. Alors on aurait compris si c'était venu de la part d'un journal satirique dont je tairais le nom. Mais là, de la part de l'État français qui est censé rassembler sa nation, c'est compliqué. L'État français qui veut être inclusif, finalement, il exclut une grande partie de milliards de personnes sur Terre. Ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est qu'au travers de cette prière de Jésus, on va voir que Jésus nous laisse un modèle pour faire face personnellement à l'hostilité, mais il nous donne aussi une puissance qu'il a mis à notre disposition pour pouvoir résister. Il nous a laissé un but à poursuivre et ne pas perdre de vue, et finalement, d'un soutien continu assuré de sa part pour pouvoir nous porter. Et le premier point que je voudrais soulever avec vous, alors qu'on va commencer la lecture, c'est que Jésus nous laisse un modèle pour prier. Jean 17, verset 1, je ne sais pas si les versets s'affichent. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. » On est à quelques heures de l'arrestation. Jésus vient de prendre un dernier repas avec ses disciples, et comme l'a rappelé Jérôme dans l'introduction à la scène, c'est un temps où il a expliqué ce qu'il allait faire. C'est un temps où il va mettre même le comble à son amour pour eux en leur lavant les pieds, chose qui dans le contexte de l'époque, ça se faisait pas. Même le pire des esclaves, il faisait pas ça là. Il lave les pieds de ses disciples, il leur montre son amour sacrificiel, celui qui va jusqu'au bout, celui qui s'humilie. Il va leur dire aussi qu'il va partir, qu'ils vont se retrouver dans un monde hostile, opposé à eux, mais qu'il ne va pas les laisser tout seuls. Il va leur donner la puissance du Saint-Esprit à leur côté. Voilà la promesse que Jésus fait. Et c'est dans ce dernier discours, dans ce contexte, qu'il va formuler cette prière à son Père. Et on sait que ce style de prière, il est bien connu dans les discours d'adieu, dans la documentation, qu'elle soit grecque ou hébraïque, dans l'Antiquité. C'est des prières de discours d'adieu. En fait, Jésus s'apprête à retourner vers son Père au travers du chemin d'une mort ignoble, d'une mort douloureuse. Et l'expression « l'heure est venue » qu'il emploie, c'est celle d'aller donner sa vie en rançon du péché de l'humanité, comme le don spirituel nous l'a rappelé. Jésus, il est venu sur terre pour porter le poids de notre péché. Oui, nous sommes pécheurs. Oui, on a besoin de sa grâce, mais Dieu nous aime. Et il a fait ce qu'il fallait pour qu'on puisse être sauvés. Amen. C'est l'accomplissement à ce moment-là ultime d'une promesse qui a été faite par Dieu dès le début de l'humanité, au moment de la chute, lorsque l'homme s'est détourné de Dieu. L'envoi d'un sauveur, le moment où tout va changer, où les humains pourront de nouveau être en relation et en paix avec Dieu. Le moment où la vie spirituelle va triompher de la mort spirituelle. Alors oui, Jésus lève les yeux au ciel, nous dit le texte. Au point culminant de l'histoire, Jésus s'arrête pour prier. Il s'arrête à la porte de la croix pour prendre un temps avec son Père et crier à l'aide. Voilà, mes amis, ce qui devrait être notre première trousse de secours, la prière. Bien souvent, c'est notre dernier recours. Mais Jésus nous montre que la prière doit être notre trousse de premier secours. C'est notre réflexe, ça doit être notre réflexe. Si celui qui a créé les cieux et la terre, qui s'est incarné, a eu besoin de s'alimenter en puissance auprès de son Père lorsqu'il est venu sur terre, à combien plus forte raison chacun d'entre nous avons besoin d'aller connecter avec le ciel pour trouver l'énergie et avancer. C'est pas parce que l'heure est venue, Jésus savait que l'heure était venue, c'est pas parce que l'heure est venue qu'il est tombé dans une espèce de résignation fataliste en disant bah, c'est comme ça. Au contraire, le fait que l'heure soit venue, elle l'encourage, elle l'alimente dans sa vie de prière. Il se dit, l'heure est fixée, donc faut que je sois prêt. Seigneur, donne-moi ta force. Vous savez, des fois, on peut vivre notre vie de foi et les difficultés qu'on rencontre, et puis finalement, on se laisse aller. On se laisse porter. De toute façon, c'est comme ça, on peut rien faire. C'est pas ça que la Bible, elle enseigne. Elle dit que oui, Dieu est souverain. Mais parce qu'il est souverain, parce qu'il est au contrôle de toutes choses, on peut aller chercher à ses pieds les forces pour pouvoir triompher, pour pouvoir continuer d'avancer. Et c'est l'encouragement que Jésus nous donne dans ce passage-là. Dieu le Père va communiquer force et courage à son Fils pour qu'il aille au bout de son appel, au bout de sa mission. Jésus demande à son Père de le glorifier afin que le Père soit glorifié. Alors il ne s'agit pas ici d'une recherche de gloire pour combler un manque d'amour ou un manque de valeur que Jésus aurait. C'est pas ça dont il est question. Ça, c'est ce que nous, on cherche souvent. On cherche à combler, alors on a besoin de se glorifier, de se starifier pour que les gens nous aiment. C'est pas la question ici. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit vivent dans une relation d'amour. Ils sont pas en manque d'amour. Mais comme l'amour est quelque chose qui se communique, quelque chose qui se transmet, le cœur de Dieu est qu'un maximum puisse l'expérimenter. Et l'expression « gloire de Dieu », c'est un nom qui signifie « sa majesté » ou sa splendeur. En fait, la gloire de Dieu, c'est la démonstration de sa bonté divine. Elle révèle finalement le caractère, le cœur de Dieu et sa présence. Par sa glorification, Jésus ne cherche pas rien de moins, en tout cas, que la gloire de son Père. Pourquoi ? Parce que Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Prenons l'exemple d'un miroir. Est-ce qu'un miroir crée une image ? Non. Le miroir reflète une image. Jésus étant l'image du Dieu invisible, il reflète le cœur et le caractère du Père. C'est difficile pour certains chrétiens, je ne sais pas vous, mais j'ai déjà entendu des chrétiens dire « Ah, moi j'aime bien Dieu dans le Nouveau Testament, mais là dans l'Ancien c'est chaud. » Mes amis, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Jésus est l'image du Dieu invisible. Il reflète le cœur, le caractère, ce qui bouillonne sur le cœur de Dieu. De toute éternité, le plan de salut de Dieu, la manifestation de son amour envers chacun d'entre nous, c'était de prendre notre condition humaine, de s'incarner, de venir en chair et de porter lui-même le poids de nos fautes que nous sommes incapables de porter. Le théologien Don Carson expliquera que finalement la croix est donc inséparable de l'ascension-élévation de Jésus. On va le faire encore à la fin de cette célébration. La scène ignoble de Golgotha ne signifie rien de moins que la glorification du Fils. Quand vous voyez Jésus mourir à la croix, vous voyez l'amour de Père pour chacun d'entre nous, et pour notre société, et pour le monde dans lequel nous vivons. Le but derrière cette glorification qui passe par la croix, mes amis, c'est que nous puissions être au bénéfice de la vie éternelle. Et c'est mon deuxième point ce matin, une puissance à saisir. On continue la lecture, Jésus dit « Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Jésus s'approche du Père pour pouvoir aller au bout de sa mission et pour pouvoir accomplir ce pourquoi il est venu sur terre. Et c'est intéressant ici parce que l'expression « vie éternelle » en grec, c'est « zoé aionios », qui nous parle de la vie de l'âge à venir, qui nous parle d'une vie de résurrection après la mort et la vie avec Dieu. Mais dans l'évangile de Jean, cette vie peut être goûtée dès à présent. Elle peut être goûtée maintenant. Elle peut être goûtée avant la fin des temps. Cette vie éternelle, ce zoé, c'est la vie comme Dieu la possède. En fait, c'est la vie de Dieu dans notre vie. La vie éternelle, c'est pas uniquement une chose qui va nous maintenir en vie après la mort, mais c'est une source de puissance créatrice et éternelle qui émane de Jésus et qui est à notre disposition aujourd'hui. Le pasteur Richard Dobbins, qui est un pasteur des Assemblées de Dieu des États-Unis, mais qui était spécialisé en relations d'aide, a dit la chose suivante. La vie éternelle est une source d'énergie non physique de laquelle toute la création a tiré son origine et qui est capable de stimuler la pensée non régénérée à penser différemment, à ressentir différemment, à décider différemment face aux grandes questions de la vie. Mes amis, c'est l'objectif de Jésus. Que son peuple, composé de toute personne qui place sa confiance en lui, expérimente ses forces surnaturelles pour faire face aux défis de la vie, pour faire face aux oppositions, pour faire face à l'hostilité et même à l'opposition. Ma question ce matin, ou plutôt une de mes questions, c'est comment regardons-nous ceux qui ne pensent pas comme nous ? Comment regardons-nous ceux qui ne nous aiment pas ? Comment regardons-nous ceux qui ont un style de vie complètement opposé à nos valeurs ? Est-ce que je les regarde comme des ennemis qui doivent être exterminés ? Ou est-ce que je les regarde comme des brebis sans berger ? Comme des gens sans repère ? Comme des gens perdus ? Vous savez, une des stratégies de Satan, c'est d'enfermer des gens dans des groupes opposés. Vous connaissez le vieil adage, divisé pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, c'est la stratégie de Satan depuis l'aube de l'humanité. Et face à la méchanceté, nous, on pourrait tomber dans le piège de Satan de déshumaniser l'autre afin de justifier l'injustifiable. Vous savez, tous les actes de barbarie qui ont pris place dans le monde sont à cause de la déshumanisation. Il y a plus de 80 ans en arrière, c'est ce que l'Allemagne nazie a fait en parlant des Juifs. C'est des sous-hommes, c'est pas les vrais hommes, c'est pas les Aryens. Et donc du coup, en justifiant ça, on a justifié l'abominable, le massacre de millions de personnes. Je reviens à cette cérémonie des JO. Oui, il y a de la tristesse, de la colère qui a pu monter en nous à la vue de certaines danses sexualisées à une heure de grande écoute où nos enfants, vos enfants, étaient devant la télé s'attendant à regarder des sportifs passer. Oui, une colère peut monter. Et vous savez, toute cette colère qui est en nous et qui bouillonne, si elle n'est pas redirigée, elle peut nous pousser à agir de manière démesurée et de tomber dans le piège de la haine et de souhaiter du mal pour les personnes. Est-il possible ce matin que Dieu veut nous communiquer la vie Zoé, la puissance de vie Zoé, pour que nous posions des actions différentes, pour que nous posions des pensées différentes, pour que nous cherchions à aimer l'autre de manière désintéressée, de la même manière que Jésus l'a fait pour nous? Vous savez, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi le premier. Alors qu'on ne s'intéressait pas à lui, lui s'intéressait déjà à nous. Est-il possible que nous ayons un regard différent? Je crois que cette vie Zoé nous rend capables de voir, de percevoir et de comprendre les choses spirituelles. Vous savez, c'est la vie Zoé qui va permettre de nous avertir lorsque nous sommes sur le point de pécher, lorsqu'on est, on est sur le point de se causer des ennuis. Vous savez, ces petits red flags à l'intérieur de nos têtes. Je sais pas, moi j'aime bien souvent quand je suis en entretien avec les gens, je dis, le Saint-Esprit, des fois, il met des feux rouges et des feux verts là. Des fois, il va mettre un feu vert alors que tout le monde nous dit que c'est rouge et puis on sent que Dieu nous conduit. Il y a cette paix surnaturelle qui dit, vas-y. Et puis des fois, alors que tout a l'air cool et tout au vert, il y a un feu rouge intérieur qui dit, c'est pas bon. Je crois à cette vie Zoé qui nous pousse et nous conduit à faire des choix différents. Mais pour pouvoir la vivre, pour pouvoir prendre cette direction proposée par Dieu, ces choix proposés par Dieu, ces alternatives divines proposées par Dieu, on a besoin, comme Jésus, de venir à la source pour être renouvelé. Jésus expliquera que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Ici, il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle de « oui, je connais qu'il y a un Dieu qui existe ». Non, le mot « connaissance » parle ici de relation, d'entretien. C'est de connaître la personne de Dieu. Mes amis, plus vous allez passer du temps avec Dieu, plus vous allez prier. Prier, ce n'est pas un gros mot, c'est exposer ce que vous vivez à Dieu. Vos difficultés, vos combats, vos questionnements, vos doutes, même votre colère quand il y a des choses que vous ne captez pas pourquoi Dieu permet ça. Cette vie de prière alimentée, en même temps, par une lecture de la parole où vous allez regarder comment Dieu pense, comment Dieu agit, comment Dieu voit les situations. Ça va venir vous renouveler et vous pousser à agir différemment, à agir et interagir comme lui. Vous savez, l'ennemi, on l'a dit, cherche à opposer et à détruire, mais notre Dieu désire sauver et restaurer l'homme. C'est ça le cœur de Dieu. Sauver et restaurer l'homme, tout ce qui a été détruit, sali par le péché. Le péché, c'est quoi? C'est manquer le but, passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. C'est finalement de dire, j'ai pas besoin de toi Dieu dans ma vie, c'est moi qui détermine ce qui est bon ou mauvais pour moi. Ça, c'est le péché. Dieu veut nous aider à faire face. Il veut aider les gens à sortir de cette réflexion qui les enferme. Mais il est vital pour nous de nous renouveler dans l'appel et la mission, auquel cas notre regard, mes amis, va être contaminé. Notre regard, il va être pourri. Voilà pourquoi Jésus, dans ce passage, va prier pour ses disciples en direct. En effet, ils allaient se retrouver, eux, à devoir poursuivre la mission de Jésus, mais sans Jésus. Alors on l'a dit, heureusement, il y aura le Saint-Esprit. Mais ils allaient se retrouver tout seuls et Jésus prie pour ses disciples. Et c'est mon troisième point, une mission à poursuivre. Versets 14 à 20, on va un petit peu plus loin, la prière est longue. Il dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité.
Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde et je me consacre moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Mes amis, sans les prières de Jésus en faveur de ses disciples, sans le fait que ses disciples se soient ancrés dans la vérité, comme on vient de le lire, dans la vérité de la parole, qu'ils l'ont pas gardée, qu'ils l'ont pas serrée sur leur cœur, ils n'auraient pas pu expérimenter la résistance face à l'opposition. Ils n'auraient pas pu expérimenter la résistance face à l'hostilité à leur égard. Lorsque la Bible emploie l'expression « le monde » ici, elle parle généralement de l'humanité qui est hostile à Dieu et à son plan. Oui, le monde hostile à Dieu déteste les chrétiens parce que leurs valeurs sont différentes des leurs. Le monde vit selon les principes et les tactiques de Satan. Par le simple fait que les chrétiens ne se joignent pas au monde pour pécher, les disciples de Christ, par leur attitude, deviennent des accusateurs vivants de son immoralité. Voilà pourquoi on se retrouve avec une caricature du repas du Seigneur. Voilà pourquoi ce n'est pas étonnant. Cette scène, elle incarne un message et des valeurs dont ils ne veulent pas. Et voilà pourquoi ils veulent nous faire nous sentir mal. Je vais vous raconter une petite histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien boire un apéritif de temps en temps là ? Ah, il y en a quelques-uns. On est en Alsace, on aime le vin blanc. Vous savez, des fois, on va boire un verre avec nos amis. Et puis ce jour-là, Raymond Pierre a décidé de boire un sirop de violette. Il y en a, ils ne me croient pas déjà. J'ai décidé de boire un sirop de violette. Et là, tu as le regard de tes potes qui disent « Ah, tu vas pas faire ça quand même. Ah, juste un petit verre. » Vous savez, on subit une pression. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin d'être réconfortés dans ce qu'ils font. Alors, ils veulent que tout le monde fasse pareil. Et si tu bois un sirop de violette, t'es pas dans le game, t'es pas avec eux. Et du coup, ils ont besoin. Donc, du coup, il y a le petit coup de pression. Ah non, tu vas pas faire ça quand même. Alors, je vais raconter la vraie histoire. Souvent, c'est RP qui met la pression. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, pour se rassurer soi-même, on veut embarquer les gens avec nous. Et c'est exactement ce qui se passe avec cette pression aujourd'hui qui est mise. On veut normaliser tout, et donc du coup, on veut l'imposer par la force. Et c'est ce qui se passe. Mes amis, je pense aussi qu'il faut faire un deuil ce matin. Il y a quelque part quelque chose dans notre tête qui croit encore que notre France, elle est chrétienne. Vous savez ? Un espèce d'idéal passé de la France. Vous savez, exactement comme quand on s'imagine les Noëls du passé, où on oublie toutes les batailles le soir de Noël, un peu trop d'alcool, etc. Puis on imagine des Noëls d'antan qui étaient bien mieux que ceux d'aujourd'hui. Un espèce d'imaginaire qui n'a jamais existé. Et c'est pareil, c'est ce qu'on fait nous en ce moment, en pensant à cette France chrétienne. Vous savez, celle où il y a eu des massacres entre protestants et catholiques, là, je vous rappelle l'histoire de France, là. C'était chaud, là. Mais il faut qu'on fasse le deuil de cette image-là. Mes amis, ce n'est pas une morale chrétienne qui fait de nous un peuple chrétien. C'est les valeurs judéo-chrétiennes, aussi belles soient-elles, et on le croit, et je le crois, les règles et les lois ne peuvent pas faire la différence dans la vie d'une personne. Seul Jésus le peut. Seul Jésus le peut. Alors oui, on a le droit d'exprimer notre opinion. On a le droit de vouloir vivre avec certaines règles dans notre pays. Et puis on peut l'exprimer. On a le droit de vote pour ça. On a le droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux, d'expliquer, ben voilà, moi je crois à ces valeurs-là, etc. On a le droit de faire tout ça. On a le droit de défendre que les chrétiens, on veut toujours, dans un pays laïque, pouvoir ne pas être dérangés parce que nous parlons de Jésus. Amen. Ça, on le croit. On veut ça, d'exprimer nos valeurs. Mais j'aimerais juste nous rappeler que Jésus et ses disciples n'ont pas non plus vécu dans un monde chrétien. Ils n'ont pas vécu dans un monde chrétien, dans une société chrétienne. Et ce n'est pas pourtant qu'ils sont devenus des réactionnaires. Avant, c'était mieux, et puis c'est ça qu'on veut. Non, ce n'est pas dans ça qu'ils sont tombés. Ils ne sont pas tombés dans la haine non plus. Mais Jésus a envoyé ses disciples pour annoncer l'évangile et gagner une personne à la fois. Gagner une personne à la fois. Mes amis, l'amour et la bonté ne peuvent pas s'imposer. L'évangile est quelque chose qui se propose, pas quelque chose qui s'impose. Parce que lorsque l'évangile a été imposé, on a déjà vu le résultat. L'histoire de France nous montre ce que c'est quand on a voulu créer un Occident chrétien. Et on a vu les dégâts que ça a fait. Vous savez, la différence fondamentale entre la puissance de Satan qui s'appelle le péché et la puissance de Dieu qui s'appelle le Zoé, c'est que Satan va toujours utiliser la contrainte, l'aveuglement, la coercition, les pressions sur les personnes. Alors que Dieu respecte notre choix. Dieu respecte le choix des personnes en voulant les transformer de l'intérieur. En Christ, Dieu s'est fait faible pour laisser à l'homme la liberté ou non de le choisir. Dieu s'est contenu d'agir. Vous savez que Jésus, il aurait pu descendre de la croix là. Et à un moment, il va le dire dans l'évangile de Jean, c'est pas vous qui prenez ma vie, c'est moi qui la donne. Donc Jésus décide, il aurait pu faire éclater sa puissance. Et là, tout le monde aurait obéi. Mais il n'y aurait pas eu forcément une adhésion de cœur. Faire éclater sa force et sa puissance, ça entraîne l'obéissance, mais pas un changement. Ça n'entraîne pas l'amour dans le cœur. Il n'y a que l'amour qui vient faire des changements intérieurs. C'est pour ça que les dictatures arrivent à faire marcher tout le monde au pas. Est-ce que ça veut dire que les gens sont heureux et qu'ils aiment leur dictateur? Non. C'est juste que si ils se plaignent, ils vont mourir. La violence et la force ne gagnent que des adhésions extérieures, mais elles ne provoquent pas des transformations intérieures. Jésus n'a forcé la main d'aucun individu. Il exposait les conséquences et les choix, et il laissait à chacun le soin de prendre la décision. Voilà pourquoi Paul écrira dans sa lettre aux Romains qu'il a laissé les gens aller à leur sens réprouvé. Tous ceux qui ne voulaient pas de Dieu, il les a laissés aller, abandonnés à eux-mêmes, abandonnés finalement à ce qu'ils veulent. Mais ce qui est important pour nous de comprendre ce matin, c'est que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Le royaume de Dieu est spirituel. Le royaume de Dieu n'a pas de frontières géographiques. Le royaume de Dieu, mes amis, désolé de dire, n'a pas de capitale. Il n'a aucun apparat visible de la royauté. Le royaume de Dieu, c'est ses fidèles au milieu des ennemis. Il n'y a pas que des ennemis autour de nous, mais vous comprenez le principe. Au milieu d'un monde hostile à Dieu. Alors oui, il y a eu un enjeu satanique et diabolique sur cette cérémonie, mais pas dans le sens où on le croit. Cette prière de Jésus nous apprend que finalement ce monde est un champ de bataille. Satan et ses armées de démons qui haïssent Christ et ses serviteurs sont en conflit avec les forces placées sous l'autorité de Dieu. Mais mes amis, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, ne nous trompons pas de combat. Nous pouvons combattre le mal ambiant, mais de la bonne façon. J'aime cette citation de Martin Luther King qui s'est battu pour la cause noire aux États-Unis, qui a dit la chose suivante, « L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. » Alors oui, on peut être irrité par ce qu'on a vu, mais utilisons cette énergie, redirigeons peut-être notre colère, notre souffrance, notre tristesse de ce à quoi on a assisté pour aimer nos contemporains en partageant la bonne nouvelle de Jésus. Il y a un pasteur qui disait « Aimer les gens jusqu'à ce qu'ils nous demandent pourquoi et même après ». C'est ça l'évangile, c'est incarner l'évangile. J'ai aimé ce matin, notre sœur Barbara m'a envoyé une vidéo sur Facebook avec les champions fidjiens qui étaient dans leur hôtel, il y avait les Espagnols en face, ils ont pris la guitare et tous les sportifs de Fidji ont commencé à louer Jésus. C'est tous des chrétiens engagés, en tout cas pour la plupart, ceux qui étaient là, et ils chantaient à tout cœur. Face à la haine, le message qu'on doit porter, c'est l'amour. L'amour de ce Jésus qui a donné sa vie à la croix pour des pécheurs qui ne voulaient pas de lui. Amen. Et ils ont chanté, et je me dis, ben c'est ça aussi l'esprit des Jeux. Et je crois que Dieu, ce qui nous attend, c'est pas être dans un boycott ou se retirer du monde comme on l'a lu, mais d'être une passerelle, un pont, et d'aller aimer les gens. D'aller leur partager c'est quoi le vrai sens de la scène. Qu'est-ce qui s'est passé à la scène? Utilisons le fait qu'ils l'ont caricaturé pour expliquer c'est quoi le sens et le message derrière. En fait, c'est une super vitrine qu'ils nous ont offert, les amis. On peut prêcher la scène sur Internet et sur Facebook et sur Insta et partout. Prêcher ce qui s'est passé là. Cet amour de Dieu pour l'humanité. Alors oui, on peut être irrité. Mes amis, dans un contexte de dieux grecs, les dieux de l'Olympe, Paul était à Athènes. On voit ça dans Actes 17. Et quand il a vu toutes ses idoles, il a été irrité, on lit ça dans Actes 17, 16 à 17. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les non-juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Le terme indigné ici, il est fort, c'est le terme grec paroxuno qui nous parle d'être poussé à la colère, d'être irrité, d'être fâché, d'être exaspéré. Oui, mes amis, il est possible de rediriger notre émotion qui est normale pour une action qui va faire la différence. Paul a utilisé cette colère qui était en lui, pas pour aller être porteur d'un message de haine, mais pour porter la vie, pour aimer plus et pour aimer mieux les gens qu'il rencontrait. Et il a partagé, il discutait sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Il venait les défier d'entendre un message différent. Et dans notre texte ici, Jésus prie pour ses disciples et ceux qui recevront leur témoignage et l'annonce de la parole de Dieu. Tous ceux qui entendront la parole, nous dit le texte. C'est Dieu seul qui peut produire un changement intérieur. Pierre dira aussi quelque chose de la même substance. Dans 1 Pierre 2,12, il dit « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal. » Et puis on le sait, en ce moment-là, on a l'impression que c'est un gros mot de parler de Jésus. Par contre, de parler de sexualité débridée, ça c'est cool. Donc le mal est appelé bien, puis le bien il est appelé mal. Et là, Pierre va dire, même là où il vous calomnie comme si vous étiez en train de faire le mal, donc discours inversé, il remarque votre belle manière d'agir et rendre gloire à Dieu le jour où il interviendra. C'est pas notre moralité qui fait des chrétiens. C'est Dieu qui fait des chrétiens le jour où il interviendra. Par contre, Dieu veut que nous, nous ne soyons pas des murs d'opposition à l'œuvre qu'il veut faire. Au contraire, il veut que notre vie serve de témoignage, d'illustration à l'œuvre qu'il va faire dans leur cœur. Ne soyons pas des obstacles par notre attitude à ce que Dieu veut faire. Au contraire, ils vont rendre gloire un jour à Dieu au travers de ce qu'ils auront vécu, de l'attitude, de cette belle manière d'agir. Notre réponse face au mal, elle peut être déterminante pour interpeller celles et ceux qui nous entourent au jour où Dieu les visitera et leur permettre d'être touchés, rencontrés par le Saint-Esprit. Et ça se passe aussi par douceur et respect, et c'est Pierre qui continue, mais c'est dans le chapitre 3, versets 15 et 16. « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent la raison, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ceux qui vous critiquent, votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte, avec douceur et respect. » Mes amis, l'homophobie, la transphobie, le rejet, le racisme, peu importe la nation, de qui que ce soit, ne permettra jamais à des gens de rencontrer Dieu. Jamais. Jamais. Même si les pratiques de vie peuvent vous irriter au plus haut point, puis Dieu sait que ça le fait, parfois, c'est jamais la haine qui va amener la vie et l'amour. On est appelé à accepter les gens tels qu'ils sont pour que Dieu puisse opérer une transformation. Les accepter, les aimer de tout notre cœur en leur proposant un message différent et en laissant Dieu faire son travail dans leur vie et dans leur cœur. Et la bonne nouvelle, mes amis, c'est que même si parfois c'est chaud parce qu'on est poussé dans nos retranchements, la bonne nouvelle, c'est que Jésus prie pour nous. Et c'est mon quatrième point, un soutien continu pour nous porter. Versets 25 et 26, « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. » C'est toujours l'amour qui fait une différence, toujours. On appelle cette prière la prière sacerdotale parce que Jésus prie pour ses disciples comme un bon pasteur. Il se place en médiateur entre le Père et les hommes et les siens. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la veille de la croix, à la veille d'offrir sa vie, Jésus considère l'avenir de l'Église. Jésus considère notre avenir ici à Strasbourg en 2024. Jésus considère l'avenir de l'Église en France en 2024. Alors qu'il va donner sa vie à la croix, il pense à son Église future, au milieu du monde. Et Jésus prie pour tous ses disciples, ceux d'hier, les apôtres directs et ceux d'aujourd'hui. Et au travers d'eux, Dieu demande de les protéger de Satan afin qu'ils restent dans la vérité. Il ne prie pas pour les épargner de l'opposition, de la haine ou des difficultés. Venez, on s'enferme entre nous, on se coupe du monde, il n'est pas gentil, il est méchant, puis on vit notre petit club entre nous. Non, ce n'est pas ça qu'il dit. Il ne prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal extérieur, mais de notre réponse du mal intérieur, parfois, qui surgit lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe. Protège-les du mal. Et ce matin, c'était vraiment mon emphase de notre mal à nous, de nos réactions, pas que des actions des autres, mais de notre réaction à nous, face à tout ça. Que dans les circonstances difficiles, Jésus prie pour que ses disciples ne soient pas la proie du diable avec ses tactiques. Et on peut être assuré, mes amis, de l'intercession de Dieu aujourd'hui. Hébreux 7, 25 nous dit, par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est ce que Jésus fait actuellement. Jésus prie. Son cœur qui battait avant la croix pour toi et pour moi est encore celui qui bat pour notre société, pour les gens qui nous entourent encore aujourd'hui. L'intercession de Christ pour son Église applique le pardon et la vie que Jésus nous a acquise il y a 2000 ans à la croix. Je vous donne une citation de Dan Ortlund qui a écrit un livre qui s'appelle « Doux et humble de cœur ». Vous savez, chaque été, j'aime bien lire un petit dévotionnel parce que ça fait du bien, un message qui vient juste booster notre foi. Et là, qui parle de cet amour fou, de ce cœur humble de Jésus. Et il dit « En effet, même s'il est au ciel, il n'a pas de désir plus ardent que d'épancher son cœur plein d'amour pour nous devant le Père. Par son intercession, Christ relie notre cœur à celui du Père. » C'est ma prière ce matin pour l'église de l'Épi. Que notre cœur soit relié à celui du Père. Nous avons été appelés à refléter la lumière de Jésus. Jésus est l'image du Père, mais nous sommes appelés à refléter cette lumière. Et je demande à l'équipe de venir. Que notre cœur, dans les temps d'hostilité, reflète le cœur du Père dans nos actions et réactions. Jésus fait encore connaître son nom aujourd'hui. Vous savez, la Bible nous dit que même si on veut nous bâillonner, les pierres, elles crieront. Il n'y a aucun verrou assez grand qu'une société peut mettre qui peut empêcher l'évangile de progresser. On a tellement de témoignages, même dans des pays ultra fermés où d'autres religions sont au pouvoir, que des gens, Jésus se révèle même à eux dans des rêves, dans des songes, pendant la nuit. Ça, c'est la réalité de notre Dieu. Il n'y a aucun verrou de fer assez puissant pour empêcher Jésus de manifester sa grâce. On vit dans un pays qui nous permet encore de partager la bonne nouvelle. Mes amis, profitons de ce temps. Profitons de cette saison qui nous est donnée. Oui, on a caricaturé la scène la semaine dernière, mais vous êtes l'occasion d'être le témoignage vivant de ce que la scène produit dans nos vies aujourd'hui. C'est ça le message de l'évangile et c'est là où Dieu nous challenge. La Bible, Vie Nouvelle et son commentaire, la Bible qu'on offre aux baptisés dit « La vie des disciples de Jésus révèle son caractère et c'est par eux qu'il est présent dans le monde. » Est-ce que ce matin, tu as envie de considérer, de te considérer, de considérer ton voisin comme des incarnations également de notre Dieu dans le monde? Des pieds et ses mains en action dans un monde en souffrance. Nous ne voulons pas être des attiseurs de haine, mais l'Église est appelée à être une Église remplie d'artisans de paix. Et des artisans, ils travaillent. Ça ne vient pas tout seul comme par magie. Ça prend un effort, ça prend de la prière, ça prend de la connexion avec Dieu, puis ça prend un pas à la fois. Et je crois que Jésus veut nous challenger à ça ce matin. Alors que dans cette saison où effectivement les ténèbres s'épaississent, quand je lis ma Bible avant le retour de Jésus, oui, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. C'est vrai. Mais en attendant, pendant ce temps-là, Dieu ne s'est pas trompé avec nous pour cette saison particulière. Et je crois qu'on peut encore faire la différence, une personne à la fois, parce que rien ne limite notre Dieu pour venir amener celles et ceux qu'il a appelés et destinés à marcher avec lui. Que nous puissions être église de l'Épi ce matin, des porteurs de lumière. Et je voudrais inviter toutes celles et ceux qui disent « Ben oui Seigneur, je veux être un porteur de lumière. Oui, les ténèbres s'épaississent, mais je ne veux pas tomber dans le club des contres. Je veux tomber être dans celui du club des pour Jésus. » Et de présenter Jésus. Si c'est ton cas ce matin, alors qu'on va reprendre ce chant, il est exalté et qu'on va le proclamer, que tu puisses te mettre debout à ta place pour dire « Oui Seigneur, je veux être un porteur de lumière, je ne sais pas comment tu veux le faire avec moi, je ne sais pas dans quelles conditions, comment tu veux que je m'adresse à mes collègues. Seigneur, je n'ai pas les ressources, mais je veux dépendre de toi ce matin. Je veux dépendre de toi pour être tes pieds et tes mains en action. » Alors que les ténèbres s'épaississent, c'est là où la lumière doit briller. Et ma prière ce matin, c'est qu'en tant qu'église de l'Épi ici à Strasbourg, mais toutes les autres communautés qui portent ton nom, qui prêchent ta parole, nous puissions être des porteurs de lumière et permettre à des hommes et des femmes encore d'expérimenter ton amour et ta grâce, parce que oui, Jésus veut encore le faire. Jésus ne voit pas des ennemis, Jésus voit des brebis sans berger. Et il veut mettre du collier, je crois, ce matin dans nos yeux, alors que les médias, les réseaux sociaux viennent nous mettre des coups de pression pour nous forcer peut-être à faire certains choix. Jésus nous appelle à un choix du cœur ce matin. Faire la différence. Et que la puissance de la vie éternelle qui est à notre disposition vienne nous aider dans nos choix, dans nos décisions. Qu'elle puisse faire reculer le mal, mais également que le caractère de Christ puisse être manifesté dans son Église ce matin. Et que tous ceux qui sont d'accord avec ça disent un grand Amen.
Il y a Yes. Je pense qu'on a raison d'applaudir notre Sauveur parce que rien ne peut le détrôner de son trône. Amen, vous le croyez? Est-ce qu'on peut encore donner une bonne main d'acclamation à Jésus, le roi des rois, celui qui nous a aimés, qui nous aimera jusqu'à la fin? Yes. Amen. Amen. Merci Raymond Pierre pour le message. Merci l'équipe de louanges. Et encore à noter, si vous avez été touché par quelque chose, si vous traversez une période où vous avez besoin de parler avec quelqu'un, l'espace Écouter Prière est encore ouvert. Il y a des gens qui sont là pour vous écouter, pour prier avec vous. Et l'équipe pastorale se tient aussi à votre disposition. Juste aller au point accueil, remplir un formulaire. On vous rappelle, on prend rendez-vous. On est là pour vous. Donc n'hésitez pas. Bon dimanche à chacun. Et allez à la France. Amen. Yes, bon dimanche à chacun.